おかしいおかしい
19h15 à Kinshasa, une heure de plus à l'est de la République démocratique du Congo. Dialogue entre Congolais avec vous, Kéline Kouté. Bonsoir.
Mala, bonsoir. Deux thèmes dans l'émission de ce soir. D'abord, affaire Jean-Pierre Bemba. La Cour pénale internationale a confirmé les charges contre les leaders du MLC. Sur quels éléments la CPI se fonde? Pour quels éléments la CPI fonde sa décision? Ensuite, dans notre deuxième thème, nous parlerons de la restructuration de la Banque centrale du Congo avec la création de deux directions générales et la nomination d'un conseiller général. Qu'est-ce qui justifie cette restructuration? Pour la première partie de notre émission, nous recevons comme invité Maître Neki Lolo, il est avocat de Jean-Pierre Bemba, il est en ligne, et Dismas Kisenge, président du groupe Lotus, une ONG affiliée à la Fédération internationale de droits de l'homme, FIDH, il est aussi au téléphone.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Les charges contre Jean-Pierre Bemba ont été confirmées hier lundi dans la soirée. La chambre préliminaire 2 a alors ordonné le jugement du leader du MLC. La chambre a conclu qu'il y a des preuves suffisantes donnant motif substantiel de croire que Jean-Pierre Bemba est pénalement responsable pour avoir effectivement agi en qualité de chef militaire des crimes de guerre, des viols, pillages. Selon Paul Madidi, chargé de la communication à la CPI Kinshasa, une chambre de première instance sera mise en place dans les tout prochains jours et cette dernière aura pour charge de définir les calendriers pour l'ouverture de l'audience, signalant que les troupes du MLC ont été déployées en République centrafricaine en rescousse au président Ange Félix Patassé, en proie à la rébellion de l'actuel président centrafricain François Bozizé. Maître Aimé Kilolo, vous êtes en ligne, vous intervenez à partir de Bruxelles. Avez-vous été surpris par cette décision de la CPI?
Ben, il faut savoir que, effectivement, j'ai lu avec attention la décision de la Cour pénale internationale. Je ne suis pas surpris que la Chambre préliminaire puisse statuer en toute autonomie et prendre la décision qui lui semble indiquer pour sa part, mais je reste tout de même, c'est vrai, perplexe face aux incohérences que j'ai pu déceler dans la décision elle-même.
Et quel genre d'incohérences avez-vous vu dans cette décision de la CPI?
Ben, il faut savoir que cette décision est prise en se basant sur un certain nombre de points. Je reprendrai les trois axes principaux qui s'y dégagent, notamment lorsqu'il s'agit de démontrer que Jean-Pierre Bemba était le chef militaire des soldats congolais qui se trouvaient en République centrafricaine et qu'il avait les contrôles effectifs de ce contingent. Les juges se sont basés notamment sur les statuts du MLC qui prévoit que Jean-Pierre Bemba a le pouvoir de nommer et notamment de démettre les chefs militaires au sein de l'ALC. Mais là, cette décision ne répond pas à la différence que nous avions demandé de faire entre les 8500 soldats congolais du MLC qui, durant la période du conflit armé en Centrafrique, demeuraient sur le territoire congolais sous l'autorité de Jean-Pierre Bemba et les distinguer du contingent limité qui comprenait environ 1500 hommes qui, eux, échappaient à l'autorité de Jean-Pierre Bemba à la suite d'un accord régional qui avait été pris dans le cadre de la FENSAD. Évidemment, on se demande mais pourquoi la Cour n'a pas fait allusion à nos arguments, ne fût-ce que pour y répondre, alors qu'elle a l'obligation de rencontrer tous les arguments soulevés par la défense.
Peut-être que vos arguments n'étaient pas pertinents, maître Kilolo.
Je vous entends poser la question en tout cas, mais il faut savoir que les dispositions du statut prévoient l'obligation de répondre à tous les arguments, quels qu'ils soient. Maintenant, il faut savoir que c'est la toute première fois que la Cour pénale internationale rejette les accusations principales du bureau du procureur. Qui faut-il le rappeler, tendait à dire que Jean-Pierre Bemba avait une intention criminelle avérée et s'était associé dans une entreprise dans le but de commettre des exactions sur des populations civiles centrafricaines. Aujourd'hui, au travers de cette décision, on voit bien entendu une réhabilitation, en tout cas de l'intégrité morale de Jean-Pierre Bemba, dont finalement on retient le strict minimum en termes de responsabilité, parce qu'on dit simplement, vous êtes un chef militaire, vous aviez le contrôle effectif, vous étiez censé être au courant des crimes qui étaient commis, et les mesures que vous avez prises, nous les reconnaissons, mais elles nous paraissent être insuffisantes, en tout cas pour prévenir et réprimer les crimes qui ont été commis. Donc voici un peu, en un mot, comment je peux résumer cette décision, qui, faut-il dire, ne tient pas compte d'un certain nombre d'éléments, notamment ne tient pas compte du fait que, finalement, M. Jean-Pierre Bemba lui-même a dû prendre les mesures qui étaient en son pouvoir. On lui reproche notamment de n'avoir pas diligenté toutes les enquêtes dans le but de mettre en évidence et d'épingler tous les crimes tels qu'ils ont été épinglés par la CPI, alors que de l'autre côté...
Maître, s'il vous plaît, je veux revenir à vous. Le temps pour moi de passer la parole à Dismas Kitenge. Dismas Kitenge, bonsoir. Vous êtes président du groupe Lotus, une ONG affiliée à la Fédération internationale de droits de l'homme, FIDH. Vous intervenez à partir de Kisangani. Êtes-vous satisfait de cette décision de la Cour pénale internationale?
Merci beaucoup, madame. Bonsoir. Je devrais dire que je ne suis pas seulement le président du groupe Lotus, mais je suis également le vice-président de la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme. Et en tant que tel, notre organisation, avec les organisations membres en République centrafricaine, ont eu à enquêter sur ces crimes qui ont été commis là, et nous avons transmis ces informations au bureau du procureur. Et pour le cas d'espèce, pour ces crimes qui ont été commis en RCA, j'aimerais bien intervenir ici comme vice-président de la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme qui avait suivi ces dossiers. Donc nous sommes, la FIDH, avec ses ligues membres, nous sommes très satisfaits par la décision de la du juge de la Cour pénale internationale pour les raisons suivantes. Premièrement, dans les cas de la lutte contre l'impunité contre ces crimes qui ont été commis en République centrafricaine, il avait fallu que la Cour enquête pour poursuivre les responsables et commence maintenant à ouvrir le procès. C'est du fait maintenant, et nous nous réjouissons que la Cour puisse agir. Deuxième considération, c'est que les victimes de ces graves crimes qui ont été commis en Centrafricaine attendent justice, attendent réparation et ont droit à la vérité. Et voilà qu'aujourd'hui, avec ce procès qui va s'ouvrir, nous pensons que la vérité va éclater, les vrais auteurs de ces crimes seront identifiés et que les victimes pourront avoir réparation. Troisième considération, c'est que nous, en tant que Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme et nos organisations membres, ne sommes pas contre une personne, mais nous sommes sur le point de principe que toutes les personnes qui ont commis ces crimes, qui auraient commis ces crimes, doivent être poursuivies par la Cour pénale internationale, être sanctionnées de la même manière. Que ce soit Jean-Pierre Bemba, si jamais il est établi, qu'il est fautif, qu'il est coupable de ces crimes, ou que ce soit quelqu'un d'autre, puisqu'il... Si les troupes du MLC étaient parties là, comme on le sait, il n'y avait pas que ces troupes-là. Il y avait des troupes également gouvernementales, il y avait des troupes rebelles. C'est qu'il y a les camps de Jean-Pierre Bemba avec Patassé, mais il y a aussi des camps de Bozizé, puisque la guerre s'est déroulée entre différentes parties. Et là, nous exhortons également la Cour à aller plus loin. Il n'y a pas eu qu'un seul présumé auteur de ces crimes, mais il y en a eu d'autres qui sont encore, qui doivent aussi répondre de leurs actes. Enfin, la dernière considération, c'est que ces procès qui s'ouvrent, nous souhaitons qu'ils se déroulent dans le cadre, dans le respect strict des règles de droit qui sont contenues dans les statuts de Rome, c'est-à-dire qui garantissent les droits à la défense, qui garantissent également le droit à un procès juste, équitable et équitable. Voilà le principe sur lequel la FIDH et ses organisations membres s'appuient. Et pour le cas de procès de Bemba, nous disons que c'est une bonne décision, que finalement le procès commence.
Donc, vous êtes satisfait?
Il faut préciser que les arguments que viennent de développer maître l'avocat de Jean-Pierre Bemba, maître Tilolo, sont des arguments qu'il a encore la possibilité de faire prévaloir dans les procès, puisque c'est maintenant que le véritable procès va commencer. Et là, rien n'est encore joué à l'avance. Il a encore la possibilité de faire toute la démonstration. Voilà, à ce niveau, ce que nous avons à dire.
Merci, Dismas Kitenge. Maître Nekilolo, je reviens à vous. Le collectif des avocats de Jean-Pierre Bemba, dont vous êtes membre, s'est réjoui du fait que la Cour n'a retenu que le strict minimum en termes de responsabilité de Jean-Pierre Bemba. Qu'est-ce que cela veut dire en termes simples?
Ça veut dire surtout que nous avons entendu beaucoup de choses depuis bientôt un an. Nous avons gardé le calme et la sérénité nécessaires. Et aujourd'hui, la vérité est dite. La Cour nous dit, si l'on recherche le responsable, les personnes qui sont directement et personnellement impliquées dans la commission de ces crimes en République centrafricaine, eh bien, ce n'est pas du côté de Jean-Pierre Bemba qu'il faut voir. Bon, nous constatons que dans l'acte d'accusation, à chaque fois, l'on dit, on cite un nom. On parle de celui qui était le commandant suprême des forces armées centrafricaines, le commandant sous l'autorité duquel toutes les troupes étrangères combattaient. Il faut savoir que les troupes congolaises combattaient sous le drapeau centrafricain. Il s'agit de l'ancien président Ange-Félix Patassé, qui reste bien entendu absent. Et nous restons déjà satisfaits de ce point de vue-là. Maintenant, il est vrai que aujourd'hui la décision qui sème beaucoup de perplexité, c'est de voir que malgré tout, on considère que Jean-Pierre Bemba était le chef militaire, en dépit du fait que tous les éléments du dossier du procureur indiquent bien qu'il ne faisait pas partie de la chaîne de commandement centrafricaine. Et donc aujourd'hui, nous sommes en train d'examiner. Il faut savoir que la décision qui vient d'être prise n'est pas encore coulée en force de son jugé. Ce n'est pas une décision définitive. C'est une décision qui reste encore sujette à reformation par une décision de la chambre d'appel. Nous disposons d'un délai de 5 jours qui va commencer à courir dès le moment où nous aurons reçu la version française de la décision, nous espérons à partir de la semaine prochaine. À ce moment-là, nous prendrons attitude pour voir si finalement nous n'allons pas préalablement soumettre un certain nombre de questions à la chambre d'appel pour que tout compte fait, si procès il y a en tout cas, que ce puisse être un procès qui se fasse dans toutes les conditions de transparence, de clarté et avec toute la sérénité nécessaire, en tout cas en ayant réponse à toutes les questions que nous avons soulevées et auxquelles la chambre préliminaire n'a pas répondu jusqu'à présent.
Et donc, vous gardez encore espoir?
Mais nous sommes tout à fait sereins. J'ai discuté très longuement avec Jean-Pierre Bemba lui-même, qui, c'est vrai, a cette préoccupation, ce souci de la célérité. Il voudrait le plus rapidement possible pouvoir présenter ses arguments, même au besoin devant la chambre de grande instance, au fond. Mais il va de soi que nous sommes en train d'examiner sérieusement la question et surtout de voir si finalement il ne faudrait pas poser la question à la chambre d'appel qui pourrait alors vider toutes les questions préalables qui continuent encore à se poser dans le cadre de ce dossier, notamment lorsque l'on évoque toute la question dans la décision de la Cour, on reproche à Jean-Pierre Bemba de n'avoir pas diligenté
vous pouvez vous résumer.
Pardon, je vous écoute.
C'est-à-dire que vous pouvez vous résumer. Donc, vous gardez encore espoir Vous avez 15 jours.
Nous avons encore toute la sérénité nécessaire quant à l'issue de ce débat. Nous ne sommes pas du tout inquiets.
Merci beaucoup, Maître Aimé Kilolo. Maître Dismas Kitenge, président du groupe Lotus, j'ai une réaction devant moi qui vient de Tindou. C'est Tindou Fils qui nous écrit. Il demande si Jean-Pierre Bemba est condamné, est-ce que la CPI tiendra compte du temps qu'il a passé en prison?
Oui, évidemment, il y a toute une procédure qui est là. Donc la Cour pourrait tenir compte de tout le temps qu'il a passé là. Donc, mais pour l'instant, on n'en est pas encore là. Donc, on est au stade de l'ouverture du procès. Et Jean-Pierre Bemba bénéficie encore de tous les droits, enfin, les présomptions d'innocence, le droit à la défense. Il doit bien organiser sa défense et les arguments que Maître Kilolo est en train d'évoquer, il doit le présenter, disons, à tous les stades. Maintenant, il y a d'abord la possibilité de faire jeter appel. Il dispose de ses droits. Après, si l'appel est rejeté, à ce moment-là, on va aller à la chambre de première instance et le procès va pouvoir démarrer. Donc, à l'instant, moi, je crois qu'on ne peut pas encore dire que Bemba sera condamné ou pas. Il faut attendre vraiment le procès puisqu'il dispose de tous les moyens pour organiser sa défense.
Mais Maître Dismas Kitenge, du côté du MLC, on continue à clamer haut et fort que le dossier est totalement vide et qu'à la fin, on devra pouvoir faire justice à Jean-Pierre Bemba. Comment vous réagissez?
Le débat n'est pas politique ni médiatique, il est judiciaire. S'ils estiment que le dossier est vide et n'ont qu'à le démontrer à la chambre d'appel et aussi si jamais la chambre d'appel rejetait, maintenant la chambre d'instance. Moi, je pense qu'il ne faut pas s'évertuer de pouvoir le démontrer à la presse ou au grand public. C'est au juge, il faut convaincre avec les arguments de droit, avec des preuves. Moi, je crois que la première bataille était très difficile pour les avocats de la défense de Bemba. Ils n'ont pas pu convaincre vraiment le juge. C'est pour cela qu'on est arrivé à cette décision, il faut le dire. Maintenant qu'ils vont interjeter appel, comme disait M. Kilolo, donc c'est de leur droit, on va voir ce que ça peut donner. Moi, je pense que sur le plan de droit, sur le plan également de droit de l'homme, c'est-à-dire de défense des victimes de ce droit, nous pouvons que constater que Jean-Pierre Bemba, et on l'a dit, si il doit être poursuivi, c'est en tant que chef hiérarchique du MLC, puisque il y a certains crimes tels que le viol, tels que autres. Bon, voilà, ça pose problème. Mais je vais dire, en tant que chef hiérarchique supérieur d'un mouvement armé qui a pris part aux hostilités et dont les hommes auraient commis des crimes qui relèvent de la compétence de la Cour, moi, je pense que la démonstration peut être faite, mais il faut souligner que la Fédération internationale des ligues de droits de l'homme, comme les organisations de droits de l'homme, ne sont pas parties au procès. Donc, je crois que la défense doit avoir le moyen de balayer et de donner les preuves contraires à celles dont disposent les procureurs. Et c'est à ce niveau que le jeu se joue.
Merci beaucoup, Maître Dismas Kitenge. C'est avec vous que nous terminons ou nous mettons fin à notre premier thème de ce soir, qui était consacré à l'affaire Jean-Pierre Bemba. Merci aussi à vous, Maître Aimé Kilolo. On espère vous retrouver dans une prochaine émission.
Dialogue entre Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 890 66 78 ou encore par SMS au 081 05 15 778.
Deuxième partie de notre dialogue entre Congolais de ce soir se penche sur la restructuration de la Banque centrale du Congo avec la création de deux directions générales et la nomination d'un conseiller général. Pour cette deuxième partie, nous avons comme invité Lems Kamwanya. Il est chargé du projet au comité de pilotage pour la réforme des entreprises publiques Copirep. Le professeur Kabengele Dibwe, je prononce bien votre nom, j'espère. Ok, Kabengele Dibwe, il est spécialiste en économie internationale et chef du département des relations internationales à l'université de Kinshasa. Il est membre du PPRD et Germain Kandinga, économiste et financier. Il est secrétaire national du MLC chargé de la communication. Avant d'aborder cette partie, le rappel de nos contacts.
Dialogue entre Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 890 66 78 ou encore par SMS au 081 05 15
758. La Banque centrale est restructurée, c'est le gouverneur Jean-Claude Massangou qui l'a annoncé hier au cours d'un point de presse à Kinshasa. La nouvelle configuration obéit à la nécessité de se recentrer sur ses missions essentielles, mais aussi de mener à bon port le nouveau programme que la RDC devra conclure avec le Fonds monétaire international dans les prochaines semaines. Les nouveautés portent sur la décentralisation des activités ainsi que la nomination d'un conseiller général en collaboration avec le FMI. Ce dernier sera chargé de veiller à la restructuration, mais aussi à l'application du prochain accord triennal FMI-RDC. Mais cette nomination d'un conseil général en charge du changement ne représente-t-elle pas la mise sous tutelle de la Banque centrale congolaise? Jean-Claude Massangou, gouverneur de la Banque centrale, répond au micro de Nazaire Nkoko.
Le conseil général sera une personnalité étrangère qui l'amènera une certaine expertise, qui dépendra du gouvernement de la Banque centrale, devra travailler en étroite collaboration avec les directeurs du changement. Et c'est là où ce conseil général apportera son expertise, ses conseils au niveau du gouvernement de la Banque centrale et certainement auprès du directeur du changement. Nous avons voulu à ce que le directeur du changement soit congolais pour que c'est quand même notre banque. Il faut que ces changements-là, certains de ces changements sont proposés par les experts étrangers, mais il y a d'autres changements aussi qui sont proposés par le personnel maison. Donc il faut qu'on s'approprie, le nouvel organisme, qu'on soit d'accord, tout ceci a été discuté dans le comité de gestion et de stratégie qui existe déjà.
Excusez-nous pour la qualité de ce son. Lems Kamwanya, vous êtes dans le secret de la réforme des entreprises publiques. Cette restructuration de la Banque centrale était-elle opportune?
Oui, tout à fait. La Banque centrale, elle ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait 2 ans qu'on est en train de réfléchir. Et on a mis en place un cabinet étranger qui a travaillé ensemble avec la BCC en collaboration avec les Copirep. Et on a eu plusieurs discussions à l'interne avec la haute direction de la Banque centrale pour voir dans quelle mesure renforcer les rôles et l'efficacité de la Banque centrale, non seulement dans la gestion des opérations financières de l'État, mais aussi plus dans la conception et la mise en œuvre de la politique monétaire, de façon à assurer la stabilité de la monnaie et à contribuer à la croissance économique. Donc, c'est un vaste programme. Il ne comprend pas seulement la réforme qui prend en compte la réforme de toute organisation de la Banque centrale, et même aussi l'appui à la mise en place de tout ce qui est là dans le cadre de la formation.
Merci Lems Kamwanya. Jamin Kambinga, il y a des directions qui sont fusionnées, c'est le cas de direction des services étrangers, des comptes courants aux monnaies nationales et fonds publics et la direction du crédit et des marchés financiers. Cette restructuration structurelle suffit-elle pour rendre la Banque centrale plus compétitive et plus performante, à votre avis?
De mon point de vue, non, pour la simple et unique raison que la réforme était évidemment nécessaire, mais il aurait été également intéressant de voir une réforme pour résoudre les vrais problèmes. Ce que j'aimerais savoir, c'est que la fusion de ces directions ou la nomination d'un conseiller général, si j'ai bien compris, je voudrais savoir qu'est-ce que ça changera fondamentalement sur les problèmes récurrents que rencontre notre banque centrale. D'abord, d'un point de vue fonctionnel, nous voyons le déficit du compte du Trésor qui est directement lié aux relations incestueuses existant entre le gouvernement et cette même banque centrale, relations incestueuses. Pourquoi? Parce que la banque centrale ou les banques centrales d'une manière générale n'ont pas vocation à être caissiers de l'État. C'est un modèle que nous avons choisi, c'est un modèle qui, me semble-t-il, de par notre culture politique, est fondamentalement critiquable, parce que la tentation est toujours forte pour le gouvernement d'agir sur la banque centrale pour financer son déficit. Et il n'y a pas une grande visibilité. Si vous regardez le modèle de la zone CEMAS, par exemple, nous avons des banques centrales qui ont des missions bien spécifiques, se limitant à celles de banque des banques, direction de la politique monétaire, suivi des paiements internationaux et des paiements nationaux, régulation ou plutôt maîtrise de l'inflation. maîtrise la question des prix notamment. Ensuite, il y a cette question du déficit du compte d'exploitation de la Banque centrale qui est un problème managérial. Il y a le suivi de la politique monétaire et de la politique inflationniste de la nation qui, elles, sont liées à des questions beaucoup plus structurelles et économiques. Donc, je ne vois pas en quoi cette réforme, si tant est que c'est une véritable réforme, va véritablement changer les choses.
Donc, pour vous, cette restructuration, elle est bonne, mais vous ne pensez pas qu'elle va changer les choses?
Non, je ne pense pas qu'elle soit bonne. Je pense qu'elle est inutile. Je crois qu'il aurait, si la Banque centrale voulait faire œuvre utile en se réformant, il aurait fallu d'abord se demander qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il n'y ait plus ce déficit du compte d'exploitation, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il n'y ait plus ce déficit du compte du trésor. Voilà, si vous répondez à cette question et que vous mettez une réforme à même d'apporter des solutions à ces questions-là, vous arrivez à avoir une réforme efficace. Pour l'instant, ce sont des nominations. Je crois qu'il y aura des fêtes dans certains quartiers de Kinshasa parce que papa ou maman a eu un nouveau poste, mais fondamentalement, sur le plan économique et financier, j'aimerais encore être convaincu.
Alors, professeur Kabengele Dibwe, vous êtes spécialiste en économie internationale et chef du département des relations internationales à l'université de Kinshasa. Vous partagez le moins point de vue que Germain qui pense que cette restructuration n'est pas opportune.
Je ne partage pas, maman, ce point de vue parce qu'il est tout à fait sentimental, subjectif, dans la mesure où, aujourd'hui, sur le plan international, le monde évolue. Nous avons des phénomènes internationaux importants à signaler sur le plan économique et financier. Vous avez la crise financière internationale, vous avez la crise financière mondiale, vous avez le problème de développement et de sous-développement qui demandent à chaque pays des stratégies appropriées. Et les réformes au niveau de la Banque centrale s'inscrivent dans le cadre de l'adaptation. Ce n'est pas seulement en République démocratique du Congo qu'il y a des réformes. Dans tous les pays, même développés, il y a des tentatives de réformes parce que toutes les institutions doivent arriver à s'adapter, n'est-ce pas, à la situation du moment. On ne peut pas critiquer des réformes lorsqu'on vise l'adaptation. Alors, je voudrais ici dire que les réformes de la Banque centrale du Congo sont très importantes et arrivent au moment où on les attendait le plus.
Et c'est important peut-être, dans quelle mesure, professeur?
C'est très important dans la mesure où, sur le plan, parce que chaque, quand on se réfère au modèle Easton, chaque environnement fait face, n'est-ce pas, à deux situations. À une situation nationale et à une situation internationale. Notre banque centrale est une banque déjà en faillite. Parce que cette banque a besoin pour son fonctionnement de plus de 1 million de dollars par mois et elle produit elle-même au titre des missions qu'elle accomplit, n'est-ce pas, moins de 300 000 dollars. C'est une banque qui doit toujours recourir à la planche à billets pour survivre. Cela revient à dire que nous avions une banque centrale, mais qui était déjà en faillite. Je l'ai dit sur plusieurs chaînes de télévision. J'ai eu à les stigmatiser pour dire que la Banque centrale du Congo est déjà en faillite. Et quelques temps après, le gouverneur de la Banque centrale l'avait annoncé pour dire ils ont des problèmes, ils sont en faillite. Mais une banque centrale, on ne peut pas la liquider parce que c'est une banque d'émission. Raison pour laquelle on ne peut que la restructurer pour l'adapter à l'environnement tant national que international. Donc ces restructurations ou ces réformes sont très importantes en tenant compte que nous devons d'un côté, n'est-ce pas, exécuter les contrats que nous avons signés avec les entreprises chinoises, de l'autre côté nous devons honorer les engagements avec la Banque mondiale pour arriver à obtenir l'annulation qui est très importante pour nous d'une grande partie de notre dette extérieure. Donc, dans un environnement national et international caractérisé par tous ces mouvements de fluctuations et de défluctuations, etc., la Banque centrale ne devait que être restructurée. C'est pour cela que j'ai dit, c'est un effort d'adaptation à la situation du moment que l'on ne peut pas critiquer en se servant de concepts tout à fait politiques ou partisans. Pour moi, en tant que spécialiste d'économie internationale et en tant que professeur de questions monétaires et bancaires, elle devait se déguiser à ça, j'ai dit, toutes les banques, non seulement de la République démocratique du Congo, sont obligées à se restructurer, à s'adapter aux conditions du moment pour arriver à répondre aux besoins tant du développement économique national que aux besoins, n'est-ce pas, des engagements pris.
Charmaine Pamela ne semble pas être d'accord avec vous.
Non, ce que je vais rappeler quand même au professeur, c'est que je ne suis pas contre la réforme. Je considère simplement que, comme vous l'avez dit, lorsqu'une banque est en faillite, la solution, ce n'est pas simplement de nommer un conseiller général. La réforme, elle est nécessaire, mais elle doit servir à quelque chose. Est-ce que vous pouvez nous prouver ici que c'est en nommant un conseiller général que nous allons résoudre la problématique du déficit du compte du trésor ou du déficit du compte d'exploitation? J'ai pensé qu'à mon avis, une autre réforme beaucoup plus vigoureuse, allant dans le sens de l'indépendance, du renforcement de la problématique de l'indépendance, d'abord opérationnelle de la Banque centrale, mais ensuite de son indépendance organique, pourrait apporter des solutions beaucoup plus adéquates. Indépendance organique, ça veut dire quoi? Imaginez un système qui rendrait les dirigeants de la Banque centrale beaucoup moins dépendants du pouvoir politique. Il y a donc, à partir de là, une nécessité de la remise en cause du rôle de la Banque centrale en tant que pilier de l'État, d'abord, mais également une révision du mode de désignation des responsables de la Banque centrale. Pour l'instant, le mandat du gouverneur est de 5 ans, il est directement lié à celui du mandat présidentiel. On pourrait imaginer un mandat beaucoup plus long, de 7 ans par exemple, ce qui donnerait au gouverneur un paravent contre, je ne sais pas moi, les injonctions politiques qui viendraient du gouvernement. À côté de cela, il y a des considérations économiques évidentes. C'est les déficits globaux de fonctionnement que connaît la Banque centrale repose également sur son pendant direct qui est la structure économique de la nation. Vous savez que le système financier n'est efficient que si de l'autre côté le pendant économique fonctionne. Donc c'est une question structurelle, mais pas simplement structurelle. Donc de mon point de vue, il faut aller beaucoup plus loin et poser les vrais problèmes. Sortons du cosmétique, la République a besoin de véritables changements, ce n'est pas de la politique, c'est un tout petit peu d'économie. Je ne suis peut-être pas un très grand spécialiste comme vous, mais j'ai la modestie d'avoir fait quelques études dans le domaine également.
Merci, Germain. J'aime ce témoignage. Parlant de cette nomination d'un conseiller général, un expatrié en collaboration avec le Fonds monétaire international, certains observateurs y voient la mise sous tutelle de la Banque centrale du Congo. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, non, avant de répondre à cette question, je me dois de répondre à certaines hérésies que je viens d'entendre sur le plateau.
Hérésie que vous venez d'entendre. Ouais. De la part de qui?
De la part de M. Germain. Oui, je ne sais pas parce que je ne sais pas auquel modèle se réfère. Heureusement qu'il a dit qu'il a la modestie de reconnaître qu'il n'est pas spécialiste dans le domaine.
Parce qu'à travers le monde
entier, j'y arrive. À travers le monde entier, les banques centrales ont aujourd'hui 5 fonctions essentielles. La première des fonctions, c'est la fonction de l'émission de l'émission monétaire. Il y a que les banques centrales qui ont ce privilège de mettre la monnaie et non pas une autre banque. La deuxième fonction, c'est la fonction des caissiers de l'État. Et cette fonction, actuellement, on essaie peut-être, il y a des mutations qui sont enregistrées, mais de manière générale, c'est la Banque centrale qui est caissier de l'État. Et suite à cette fonction, elle est même appelée ailleurs comme un conseiller économique et financier de l'État. Et la troisième fonction de la Banque centrale, c'est la mise en œuvre de la politique monétaire. La quatrième fonction, c'est généralement être la banque des banques. Et la cinquième fonction, c'est la supervision de l'ensemble du système financier national. Et c'est dans ce cadre-là que la Banque centrale est aussi chargée de pouvoir exécuter les accords monétaires conclus par l'État au niveau international. Là, ce sont les 5 fonctions traditionnelles. Lorsqu'on parle de l'indépendance de la Banque centrale, c'est généralement par rapport à la mise en œuvre de la politique monétaire. Il faut que la Banque centrale, elle, soit libre dans la conception et la mise en œuvre de la politique monétaire sans qu'il y ait interférence de pouvoirs publics. C'est à ce niveau-là que vous prenez les modèles allemands, les modèles français, même les modèles américains, vous verrez que les présidents des banques centrales ou les directeurs des banques centrales sur ces points-là, ils n'ont pas d'instruction à recevoir, ni du gouvernement, ni du ministre des Finances, parce qu'ils ont cette autonomie, cette indépendance fonctionnelle dans la mise en œuvre et la conduite de la politique monétaire. Il a évoqué les problèmes du déficit du compte d'exploitation et du déficit du compte du trésor public. Les comptes du trésor public, c'est les comptes de l'État qui enregistrent toutes les recettes et les différentes dépenses engagées par l'État. Si ce compte est déficitaire, ce n'est pas par la faute de la Banque centrale, c'est plutôt une mauvaise gestion des finances publiques. C'est-à-dire l'État, il est budgétivore, il dépense plus que ses moyens. Et la Banque centrale n'a pas de responsabilité pour dire à l'État, écoutez, vous dépensez au-delà de ses moyens. Mais si seulement la Banque centrale doit accorder des crédits à l'État, non pas chaque fois recourir à la planche à billets, mais c'est à la hauteur des recettes de l'État passant sous forme d'avance. Mais les comptes d'exploitation, ça c'est les comptes d'exploitation par rapport aux opérations propres de la Banque centrale. Quand on regarde ses propres recettes par rapport à ses dépenses, on se rend compte que la Banque centrale, la nôtre particulièrement, parce qu'ailleurs les banques centrales sont autant rentables.
S'il vous plaît, vous pouvez vous résumer. On n'a pas beaucoup de temps.
Donc, j'aimerais, si j'ai évoqué les deux, c'est pour séparer les déficits du compte d'exploitation et les déficits du compte de trésor public. Ces deux matières et qui ont des rubriques tout à fait différentes et des instructions tout à fait différentes.
Mais est-ce que vous pouvez alors répondre à ma question
par rapport au conseiller général? Je crois que le conseiller général qui a été mis, comme le gouverneur de la Banque centrale l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas une façon de mettre sous tutelle la Banque centrale. La Banque centrale dispose d'une autonomie et on ne peut pas la mettre sous tutelle. Mais tout simplement, je crois qu'ici on voulait, pour permettre que notre pays, dans le cas des accords qui sont conclus avec les fonds monétaires, et vous savez que les fonds monétaires assistent la Banque centrale avec des sommes 40 millions, 50 millions, ça dépend des exercices, pour consolider ses opérations financières. Dans ce cadre-là, on aimerait voir que toutes les actions qui sont entreprises sont respectées et aider la Banque centrale à être efficace dans la mise en œuvre et la conduite de ses opérations. Les conseillers ne prennent aucune décision, les gouverneurs restent l'unique autorité qui est habilitée à prendre des décisions. Un conseiller, il donne des avis, et ces avis-là ne sont pas contraignants. On peut les prendre en considération ou pas. On ne peut pas considérer que le fait qu'il y ait ces conseillers qui sont expatriés, c'est une nécessité de la Banque centrale. Loin s'en faut.
Merci, Lens. Germain, en une minute.
Oui, je vais vous dire très rapidement qu'il ne suffit pas d'utiliser le mot hérésie pour considérer que ce qu'on dit ensuite est forcément vrai. Je voudrais quand même rappeler à votre spécialiste que je ne dis pas de bêtises, je sais de quoi je parle. Je suis titulaire d'une maîtrise en économie internationale, d'un DEA en monnaie finance banque et d'un MBA. Donc ça veut dire que lorsque vous nous faites ici l'exégèse de ce que vous croyez être forcément comme vrai, ça ne veut pas dire ce que les autres disent, ce sont des bêtises. Vous avez pas, j'ai dit quoi dans mon intervention?
Rapidement, une minute.
On
n'a pas beaucoup de temps, Germain.
Prenons le modèle américain. L'indépendance de la Banque centrale n'est peut-être pas liée, la limite de l'indépendance de la Banque centrale n'est pas liée à une intervention du gouvernement, mais elle est soumise à l'autorité du Parlement. Première rectification de ce que M. Lems Kamwanya a dit. Ensuite, prenons le modèle anglais. C'est le modèle tutélaire par excellence. Elle a suivi quelques modifications depuis mai 1997, mais elle reste fondamentalement soumise à l'autorité du gouvernement. Il y a aussi une problématique de la question de l'indépendance. Le modèle français, vous parlez de la problématique du caissier de l'État. Je voudrais quand même vous rappeler que dans le système français, comme au Gabon, comme au Cameroun, il y a ce qu'on appelle un trésorier payeur général, qui est somme toute le responsable du trésor public. Le compte, effectivement, du trésor public est positionné au niveau de la Banque centrale, mais la relation incestueuse est beaucoup moins évidente à partir du moment où il y a deux institutions distinctes. Par exemple, dans la zone CEMAC, les avances de la Banque centrale, de l'Afrique centrale, la BCEAC, aux différents États, ne doit pas représenter plus de 20% du déficit budgétaire d'année précédente. Donc, il y a des considérations qui clarifient l'approche. C'est pour ça que, de mon point de vue, on doit séparer ces deux fonctions, ériger un trésorier, une direction du trésor plus forte, un trésorier général, et de l'autre côté, la Banque centrale se concentrant sur ses activités principales qu'il a très justement énumérées. J'imagine qu'il a un très beau livre devant lui, et c'est très bien. Ensuite,
rapidement, Germain.
Ben écoutez, si vous ne voulez pas de débat, passons à autre chose.
Non, non, allez-y, 30 secondes, on n'a pas beaucoup de temps, il nous reste 6 minutes seulement.
Non, donc ensuite, on est tous tombés d'accord sur la question ou l'importance de ce conseil général. Je voudrais quand même rappeler que M. Léon Scamoigna vient de nous dire que le gouverneur gardait l'impérium de ses décisions, donc ça revient à ce que j'ai dit, c'est une réforme de façade. Je crois que le copyright est composé de gens très compétents, mais qui devraient, de mon point de vue, aller plus au fond dans les réformes pour que le peuple congolais sente effectivement qu'il y a des choses qui bougent. Je ne crois pas, moi, en tant que citoyen, que si demain on m'annonce qu'il y a un conseiller général qui est nommé au niveau de la Banque centrale, je vais me dire, très bien, c'est sûr que la politique monétaire sera beaucoup mieux menée. Et ce n'est pas une simple question, ce n'est pas un point de vue hérédique.
Merci Germain. Professeur Kabengele Dibwe, il y a un auditeur qui nous écrit depuis la province orientale, depuis Siro, il s'appelle Docteur Edo. Il pense que la nomination d'un conseiller spécial à la Banque centrale du Congo n'est qu'une distraction. Rappelez-vous la nomination il y a une dizaine d'années de Monsieur Blue Montal, expert du FMI, n'avait-il pas fini par démissionner parce qu'il n'était jamais écouté? Qu'est-ce qui a changé pour que le nouveau conseiller joue pleinement son rôle? Comment vous répondez à cet auditeur?
Non, il ne faut pas, vous savez, sur le plan économique, être pessimiste, madame. Après l'intervention de Léon Scamoigna, je suis vraiment satisfait. Il a compris ses enseignements. Il a rappelé les 5 missions d'une banque centrale. Je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas liquider une banque centrale. Elle est en faillite, la nôtre, la Banque centrale du Congo. Mais devant les impératifs de développement économique, devant les engagements pris avec les entreprises chinoises, avec les fonds monétaires internationaux, il faut que notre banque soit soumise, n'est-ce pas, à une série de réformes et à une orthodoxie de gestion. Cela revient à dire que notre banque centrale, en tant que institution de mise en œuvre de la politique économique et monétaire nationale, en tant que conseillère économique et financière du gouvernement, cette banque, il était grand temps qu'elle puisse être restructurée.
Mais comment vous êtes demandé
maintenant la nomination d'un conseiller général? C'est très important. Parce que dans l'émission d'une banque, nous venons d'y dire que la Banque centrale joue le rôle de superviseur, n'est-ce pas, du système financier national. Cela revient à dire que par rapport aux engagements pris par notre pays vis-à-vis des institutions de Bretton Woods, je vais citer ici le Fonds monétaire international, il fallait qu'il y ait une certaine discipline à l'intérieur observée en ce qui concerne le respect des engagements pris, de façon à ce que nous puissions arriver, n'est-ce pas, à obtenir ce qui nous est promis, c'est-à-dire l'annulation d'un pourcentage important de notre dette extérieure. Donc ce conseiller, comme l'a dit Léon Scamoigna qui est intervenu tout à l'heure, ce conseiller ne remplace pas le gouverneur de la banque. Mais au contraire, on dit bien conseiller, il va donner des conseils, il va suivre la situation de façon à ce que notre banque centrale puisse honorer les engagements pris, de façon à permettre au pays...
Et le gouverneur.
Pardon? Allez rapidement, on n'a plus beaucoup de temps, on a plus que deux minutes pour mettre ça.
Ça par contre, je crois que c'est
madame, j'ai besoin de votre protection.
Je vous protège, vous avez la parole. En 30 secondes, professeur.
Alors, je disais,
on va
continuer cette
émission, professeur, en 30 secondes.
Merci.
Est-ce que cette restructuration va relever la banque centrale? En un mot.
Vous savez, lorsqu'une banque est en faillite, comme la Banque centrale du Congo, toutes les propositions de réforme sont les bienvenues, de façon à ce que nous puissions relever les blasons ternis.
Merci, professeur.
Ces réformes, moi je les encourage, mais je voudrais que la banque puisse s'imprégner, n'est-ce pas, d'une certaine discipline dans l'application de ces réformes.
Il y a
quelque temps, nous avions assisté à la nomination de grands comptables qui avaient pour fonction d'être des commissaires aux comptes à la Banque centrale. Ça n'a strictement rien changé au problème de fond. Je persiste, la réforme ou des les réformes sont nécessaires, mais il faudrait de bonnes réformes vigoureuses qui attaquent les vrais problèmes et non pas simplement des réformes pour bouffer des budgets.
S'il vous plaît,
je suis content qu'il soit pour les réformes.
Merci, professeur. C'est la fin de cette émission. Merci à Guy Maté qui l'a réalisé, assisté de Alain Héron de Berlin Saïka, coordinateur Martin Seboujangoué, mise en onde Alain Goy, qui a été à la présentation en bonne suite de programme sur Radio Capi.
Oh, Kathy.